courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Un temps pour découvrir des personnes, des projets et dynamiques qui se passent maintenant et à côté de chez vous.
Un temps pour décrypter des sujets de fond, comprendre et donner du sens.
Une émission mensuelle présentée par Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel, cofondateurs de Sonessence.
Une association qui accompagne la création d'entreprises dans le Val-de-Saône. Et bonjour à tous et toutes, bienvenue à Courant Porteur. Bonjour Ludovic.
Bonjour Elisabeth.
Alors aujourd'hui, nous accueillons Marie-Odile Robinet, coach en entreprise. Bonjour Marie-Odile.
Bonjour Elisabeth, bonjour Ludovic.
Bonjour Marie-Odile.
Alors, quel est le sommaire de cette émission ? Première partie, on va revenir sur ton parcours et ton action en entreprise. Et puis sur la partie fond, les dynamiques de management par le CARE. Comment on prend soin, comment on fait ensemble et comment on embarque. Et c'est un sujet qui touche autant les salariés que les managers, que les entrepreneurs. Et plus particulièrement, on parlera de ton accompagnement des seniors avec des enjeux de transmission, de transition, transition de vie et de performance. Alors tout d'abord, Marie-Odile, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi et de ton parcours ?
Avec plaisir. Alors moi, je suis pompe située, je suis plutôt en dernière partie de parcours, on y reviendra tout à l'heure. J'ai commencé à travailler dans l'entreprise. J'ai fait une école supérieure de commerce et puis je suis rentrée dans l'entreprise. Et j'ai eu une spécialité, on va dire, de création d'activités ou d'entreprises au sein de groupes plus grands, notamment pour louer du matériel industriel aux entreprises. Donc plutôt dans l'économie de la fonctionnalité. J'ai découvert ça plus tard, mais déjà, j'aimais bien l'idée de faire fonctionner des biens industriels plusieurs fois et utilisés par des grandes entreprises, puis des entreprises qui démarrent, puis accompagner et faire en sorte qu'un matériel quel qu'il soit puisse avoir plusieurs vies. J'ai occupé aussi un poste de DRH qui m'a aussi appris pas mal de choses derrière. Donc des premières expériences, j'ai appris le faire ensemble quelque chose de nouveau avec plein de parties prenantes qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Voilà. Donc j'ai trouvé des clés pour faire travailler tout le monde dans le même sens. Et puis de mon poste de DRH où j'ai eu l'occasion d'avoir à mener un plan social qui n'avait pas de réelle raison d'être économique, ça m'a permis de découvrir que derrière le salarié, la compétence, il y a une personne dans toute sa complexité, ses contraintes personnelles, son équilibre ou déséquilibre de vie.
Et aujourd'hui, et après, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est encore une autre marche que tu es en train de franchir. Mais après, t'as bifurqué dans autre chose.
Oui, après, je trouvais plus trop ma place à l'intérieur de ce type de système. Et j'ai envie de creuser, chercher et puis accompagner justement les personnes et les collectifs à être bien ensemble, à avoir envie de faire œuvre commune. Dans des ambiances plutôt positives, constructives, dynamiques. Et donc, je me suis lancée à mon compte il y a 24 ans, presque 25. Et j'ai creusé, et je creuse toujours cette question de quoi a-t-on besoin pour faire société ensemble, une société dont on aurait envie, dans laquelle on aurait envie de vivre, en fait.
Oh, ok, merci. Et est-ce que tu peux revenir peut-être sur quel a été ton ou tes points de bascule pour t'engager dans ces différents projets et peut-être le dernier aussi ?
L'observation en fait de ce qui se passe dans des structures et de la façon dont vivent les salariés, j'ai été assez frappée de voir qu'une même personne, selon l'environnement dans lequel qu'elle, elle est. Elle peut être enthousiaste, avoir envie de donner le meilleur d'elle-même, pas regarder son temps de travail, être créative et dans un autre espace, être juste donner le minimum. Voilà. Donc, et pour avoir fait fonctionner beaucoup de collectifs, je sais qu'il y a des ingrédients qui font que ça fonctionne. Et puis, il ne faut pas grand-chose pour qu'il n'y ait pas de collectif, en fait, qui n'existe pas. Donc.
Oui, tu racontais que justement, dans tes fonctions, où tu mettais en place des nouvelles activités, tu avais des collaborateurs qui avaient des problématiques de fonctionnement et d'engagement, quelque part, dans leurs fonctions habituelles, mais que qui, toi, dans ton projet, quand elles étaient là, elles étaient motivées, compétentes, dynamiques, enthousiastes.
Oui, et puis c'est aussi, quand on est dans ce type de poste, on découvre aussi la puissance de la transversalité. Mmh. Voilà, où chacun, avec ce qu'il a amené, est au service du projet collectif. Et du coup, après, en étant à mon compte, j'ai énormément œuvré pour le développement de dynamiques transversales dans les organisations, justement. Pour se centrer autour d'une problématique et autour d'un projet à construire et non pas autour de niveau hiérarchique, d'ego et voilà.
Ok. Et donc, tu es entrepreneur depuis un sacré bout de temps, du coup. Je crois que tu es en CAE aujourd'hui, en coopérative d'activité et d'entrepreneuriat. C'est peut-être pas tout de suite que tu as fait ça ?
Non, ça doit faire 8 ans que je suis chez Graines de Sol, pour ne pas les nommer. Mmh. Voilà, coopérative d'entrepreneurs qui fonctionne en gouvernance partagée. Voilà. Et nous sommes tous associés de la coopérative une fois qu'on a lancé son activité.
Donc avant, tu étais indépendante ?
Avant, j'étais indépendante, oui. Absolument.
Et donc dans la vraie solitude de l'indépendant.
Dans la vraie solitude de l'entrepreneuriat. Voilà, même si j'ai fait pas mal d'expériences d'associations diverses et variées.
Alors après, pour expliquer un peu plus les CAE, c'est un peu comme les sociétés de portage, donc tu es salarié. Mais la particularité, c'est que tu es entrepreneur associé, comme tu l'as dit. Et il y en a de plus en plus qui sont effectivement en gouvernance partagée. Est-ce que ça change la donne pour toi ? Qu'est-ce que ça change ?
Oui, ça peut se changer la donne. Voilà, c'est-à-dire que chacun est partie prenante et co-responsable du succès du collectif. Ça, on le voit dans pas mal de domaines. Le fait que ces coopératives soient ancrées sur des territoires aussi, ça pose la question, en tant qu'entrepreneur, quelle valeur ajoutée on a envie d'apporter à un territoire. Donc ça permet ce genre d'échange et ce genre de discussion. À condition que les postures aillent dans ce sens-là.
Oui, c'est pas si simple, en fait, de changer de posture, même quand on a envie.
Oui, il suffit pas d'avoir une belle intention, une envie, pour que ça fonctionne. Si chacun fonctionne dans une logique d'entrepreneur indépendant, que chacun est, et n'apprend pas à faire ce pas vers le commun et le collectif, ça peut aussi créer des souffrances, des incompréhensions et des dysfonctionnements, comme dans n'importe quelle structure collective.
Ouais. Et après, il y a des outils et des méthodes, et il y a de l'apprentissage, en fait, pour y arriver. Quel est le rêve à l'origine de ton engagement, Marie-Odile ?
Le rêve ou la croyance ? Moi, je crois beaucoup en l'humain dans son immense capacité à faire des grosses bêtises, mais aussi dans son immense capacité à créer des choses incroyables, prolixes, abondantes. Voilà, donc mon rêve, c'est de savoir comment aller contacter ça chez les personnes et dans les collectifs pour rester alignée, centrée sur le rêve de bien-être, de mieux-être que chacun poursuit. Quelque part, tout le monde a envie de vivre dans une belle société, de se sentir bien, avoir des relations harmonieuses avec les autres, avec l'environnement. C'est le savoir-faire un peu qui manque. Donc, mon rêve, c'est d'accompagner, d'aider, de contribuer.
Avec toute ton expérience et tes outils.
Ouais, enfin, de une petite pierre à l'édifice. Mais...
Ah bah, c'est immense. Ok. Ça va ? Et maintenant, Marie-Odile, est-ce que tu peux nous pitcher ton offre actuelle ?
Ouais, je peux le faire. Je vais le faire. Mon constat, c'est que il y a partout, et l'accompagnement que j'en parlerai tout à l'heure avec Soin Essence, m'en donne des tas d'exemples de belles initiatives pour transformer la société, pour avoir un impact positif. Mon expérience, c'est que si l'humain ne change pas de posture en profondeur, on l'évoquait un peu tout à l'heure, ça pourrait ne pas fonctionner. Voilà. Mon deuxième constat, c'est que c'est pas seulement les porteurs de projets dans ce sens-là qui doivent s'y mettre, mais c'est aussi toute la vie économique, enfin, les entreprises, tous les partenaires économiques qui doivent eux aussi au quotidien se poser la question de est-ce que ce que je fais, ce que je produis, ce que j'impacte va dans le sens d'une société meilleure, plus forte, plus saine. Ou est-ce que je participe aussi à la destruction de la société? Donc voilà. Et pour ça, c'est important d'avoir des changements de posture, des changements dans la qualité des relations, des changements dans la façon de faire ensemble. Voilà. Et donc,
tu parlais de posture intérieure de l'humain, effectivement, qui amène de l'ouverture de l'esprit, du cœur. Et que la volonté de changement n'est pas suffisante, il faut aussi le courage de le faire, dépasser les peurs, les jugements, la critique. C'est tout un programme déjà, rien que ça.
Oui, et on le voit dans notre société où il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de propositions qui se font et qui vont dans un super sens et qui ne se réalisent pas ou peu ou à toute petite échelle parce que la peur de changer, la peur du jugement, la peur de se tromper, la peur de la critique, enfin bon, bref, font qu'on n'ose pas forcément passer le pas, ce qui est dommage.
Il y a beaucoup de non-dits, souvent.
Oui.
Parce qu'on n'ose pas se dire et on a peur de comment ça va être reçu.
Oui, exactement.
Il y a du changement dans la relation à l'autre aussi, tu disais?
Oui, du changement dans la relation à l'autre, être capable d'ouvrir son esprit à des idées novatrices, d'ouvrir son cœur aussi, de comprendre la souffrance de l'autre ou comprendre l'impact que je peux avoir dans la vie de l'autre. Avoir une relation plus profonde, plus ouverte, plus authentique, ça me paraît indispensable pour inclure tout le monde.
Voilà, oui, c'est ça. Et tu y arrives en entreprise, tu constates qu'il y a des entreprises qui sont moteurs là-dedans et ou avec des beaux résultats?
Oui, il y a des entreprises qui sont moteurs là-dedans. Il y a des entreprises qui ont déjà enclenché cette démarche du prendre soin. Faire en sorte que chacun puisse prendre soin de lui-même, prendre soin du collectif, qui essayent d'incarner la bienveillance. Beaucoup le déclarent, très peu l'incarnent, mais il y a des entreprises qui essayent d'incarner la bienveillance, la bientraitance. Et du coup, les personnes qui travaillent dans ce type d'organisation ont envie de donner le meilleur d'elles-mêmes, ont envie de se dépasser, sont heureuses de travailler dans ce type d'environnement. Mais ça reste encore un peu à la marge.
Mais tu contribues à ça. Et on parle souvent de devoir changer la culture dans l'entreprise ou dans la société.
Oui. Et moi, j'aimerais contribuer à installer une culture du prendre soin. Dans les pays anglo-saxons, c'est plus développé que chez nous, aux États-Unis, en Angleterre notamment. C'est la culture du care en anglais, en français, ça serait le prendre soin. Apprendre à prendre soin, à prendre soin de soi déjà, pour être bien, pour être aussi diminuer son stress, diminuer ses peurs.
Sa charge mentale,
voilà, de façon à avoir cette ouverture, cette sérénité, cette tranquillité dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir avancer. Et puis prendre soin de la relation, prendre soin du collectif. Tout ça pour prendre soin de l'univers dans lequel on est.
Je parle avec les mains. De plus grand que soi. Voilà. Oui, tu parles avec les mains, on ne le voit pas. Tu parlais de passer d'une culture de la réparation à une culture de la prévention.
Oui.
Je trouvais ça très chouette.
Oui. Mais même aujourd'hui, quand vous allez chez le médecin, c'est parce que vous êtes malade, on vient chercher réparation. Voilà. Mais on peut aussi faire en sorte de ne pas tomber malade, ça serait pas mal non plus.
Oui, ce serait pas mal. Oui. Tu disais que ton intention, c'était d'aider les entreprises à créer une culture du prendre soin. Et plus particulièrement, tu parlais des managers, des salariés, mais aussi des entrepreneurs.
Oui.
Et notamment, ton offre aujourd'hui porte sur la fin de carrière, justement.
Oui, la fin de carrière, parce que j'y suis.
Du coup, voilà.
J'ai fait le parcours, je me suis posé pas mal de questions. Et puis, j'ai eu pas mal de clientes, beaucoup des femmes, quelques hommes aussi, qui sont en dernière partie de carrière. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes... subissent un peu ou attendent de manière un peu passive que l'échéance imposée arrive. Et les personnes que j'ai accompagnées notamment se sont rendues compte qu'elles pouvaient s'autoriser à mettre en perspective, à offrir leurs compétences, leur expérience, pour quelque chose qui les épanouit, qui a du sens, qui est utile à la collectivité. Et ces personnes que j'ai accompagnées, elles sont arrivées en se disant « Bon, comment je peux limiter la casse jusqu'à la retraite ?» Et elles sont reparties avec des vrais projets de cœur. Et en plus, un projet de cœur, c'est bon pour la santé. Donc,
qui plus est.
Et je pense qu'il y a un vrai sujet qu'on développera peut-être tout à l'heure. Mais il y a un vrai sujet. Et aujourd'hui, c'est une population qui est totalement invisible, dont on parle peu, pas.
Certes. Voilà. Et quand on parle d'entrepreneur, il y a en plus ce qu'on disait au tout début, cette question de la transmission. Et tu disais du surinvestissement aussi.
Oui, c'est ça. Alors, quand on est entrepreneur, je dirais que la problématique est décuplée parce qu'il y a quand même confusion entre la personne et son activité professionnelle. Il y a souvent eu un gros investissement personnel de l'entrepreneur qui compte pas ses heures. Il y a aussi la charge affective. Quand je suis entrepreneur, je me lance avec cœur, là aussi, dans mon projet. Et du coup, qu'est-ce que j'en fais de ce projet? Qu'est-ce que j'en fais de cette activité? Comment je la transmets? Comment je l'arrête? Comment je continue à avoir du sens dans ma vie une fois que j'ai arrêté mon activité professionnelle? Puis est-ce qu'il faut l'arrêter complètement, partiellement? Et les entrepreneurs sont souvent assez démunis sur cette période-là, cette période de transition, et se posent pas la question de l'après non plus. Comment je me projette et je continue à être enthousiaste et investi pour apporter quelque chose aux autres une fois à la retraite.
Oui, tu nous parlais d'un de tes outils, de se projeter finalement à 90 ans, voire plus.
140 ans.
Voilà. 140 ans. Oui, de se projeter à 140 ans et voir si ça change.
D'allonger sa ligne de vie, d'allonger le champ des possibles. Voilà. Et comme les scientifiques disent que l'humain devrait pouvoir vivre à peu près en bonne santé jusqu'à 140 ans, pourquoi pas allonger sa perspective.
Allons-y.
Et du coup, j'en suis à moins de la moitié, donc ça, c'est chouette.
En milieu de carrière.
Exactement, en milieu de carrière. Mais ça ouvre plein de perspectives. Faites l'essai, vous qui écoutez, faites l'essai.
Super. En parlant de perspective, si on parle d'écosystème local, est-ce que ça fait sens pour toi et qu'est-ce qui ferait sens?
D'abord, ça fait 2 ans que je suis installée dans le Val-de-Saône et que j'ai découvert et j'ai un vrai coup de cœur pour la région, pour ce territoire. D'abord, j'ai été beaucoup très nomade dans ma vie. Et là, c'est un endroit où j'ai été très bien accueillie, où je fais de belles rencontres. En plus, je suis amoureuse de la Saône, donc j'aimerais pouvoir m'y baigner. Donc j'ai un coup de cœur pour le territoire.
Bienvenue.
Merci. Et puis, j'ai fait votre rencontre à tous les deux de son naissance. Et ça m'a permis de rencontrer aussi des superbes initiatives d'entrepreneurs sur le territoire. Vous m'avez permis aussi de me mettre en lien avec d'autres personnes, donc de rentrer dans une dynamique collective. Et vous avez compris que j'aime bien les dynamiques collectives, je crois. Voilà. Et donc... c'est un endroit où je me sens bien et où j'ai envie de contribuer. Si je peux apporter une petite aide à ce que les choses bougent, ça sera avec grand plaisir.
Merci. Tu parlais de ton pas de côté et aussi de sortir de la solitude de l'entrepreneur, pour le coup.
Oui.
Et donc, du coup, merci d'être une de nos entrepreneuses ou entrepreneurs. Est-ce que tu as deux mots à dire par rapport à l'accompagnement, ce que ça t'apporte, hormis de faire du lien avec d'autres entrepreneurs?
Oui, quand on est entrepreneur de longue date, de temps en temps, c'est essentiel de faire un pas de côté pour savoir si on est toujours aligné avec ce qu'on a envie de faire, et puis se renouveler, et puis se reprojeter aussi. Et c'est ce que j'ai pu faire avec Soinessence, à la fois avec l'accompagnement individuel de qualité, puis questionnant, en même temps soutenant, bienveillant, qui permet d'ouvrir un espace sécurisé pour aller creuser un petit peu plus au fond de soi et chercher ses solutions, chercher ses pistes, ses voies. Et puis l'accompagnement collectif qui permet les rencontres dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est inspirant.
Merci.
Merci.
Courant porteur.
Quelques mots sur ta vision à 5 ans. Et après, on enchaînera, je pense, parce que ça fera le lien avec la rubrique de fond.
Ma vision à 5 ans, bah, c'est d'avoir multiplié des expériences d'accompagnement individuel et collectif qui fonctionnent et de pouvoir transmettre ça à d'autres aussi pour que ça SM et que ça se démultiplie un peu partout. Voilà, j'aimerais que partout dans le monde, les gens soient bien.
C'est un beau rêve, une belle perspective. Merci beaucoup. Alors, rubrique de fond maintenant, le management par le care et l'accompagnement des seniors, ce serait un des leviers pour une entreprise durable et performante.
Oui, les entreprises aujourd'hui font face à de multiples défis. À la fois, elles sont co-porteuses du défi qui nous anime tous. À l'intérieur, elles doivent faire face à pas mal de mal-être, de stress. Il y a beaucoup de cas de burn-out, il y a beaucoup de cas de surcharge mentale, des difficultés à recruter, un turnover qui peut être élevé, et un vieillissement de la population active. Donc, il y a vraiment besoin de se pencher là-dessus, de s'en préoccuper et d'intégrer tout le monde. Et si on veut trouver des solutions pertinentes, innovantes, performantes, voilà, on a vraiment besoin que l'ensemble des troupes soient plutôt bien dans leur basket, bien dans leur santé, bien les uns avec les autres. Je pense que c'est une condition importante pour réussir.
Tu avais quelques chiffres à nous partager ?
Oui, il y a des chiffres sur la santé mentale et le bien-être au travail. On dit que pas loin de 70%, d'après une étude du Monde qui date de l'année dernière, donc c'est récent, qui considèrent que leur travail impacte leur santé mentale. Donc c'est quand même 70%, ça fait beaucoup.
Ça paraît voilà. Logique en même temps.
Voilà, et en même temps c'est logique. Le vieillissement des actifs, ben, ça c'est juste une réalité de notre pyramide d'âge. Et avec un taux d'emploi qui est inférieur à la moyenne européenne en France. Donc en France, on a un peu de mal à inclure les seniors, appelons-les comme ça, même si j'aime pas beaucoup le mot.
Les 55-64 ans.
Voilà, 55-64 ans. C'est cette étude. Mais voilà, mais et même au-delà, aujourd'hui, c'est les gens qui sont en fin de carrière dans l'entreprise reçoivent peu de promotion, peu de formation, peu de perspectives. On leur demande même pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire, à part éventuellement former d'autres, mais tout le monde n'est pas pédagogue. Donc voilà, à quel moment on leur ouvre un espace où ils peuvent continuer de s'épanouir et continuer de contribuer?
En lisant les statistiques, j'ai vraiment été surpris qu'il n'y ait que 57%. Je pense que le chiffre est important. Des 55-64 ans qui sont... qui sont employés. Enfin, le taux d'emploi, il est vraiment faible. Bon, plus faible que la moyenne européenne, hein, qui est 62%, mais ça fait pas beaucoup plus qu'un sur deux, finalement. C'est vraiment peu, finalement.
Oui, et puis aujourd'hui, par exemple, une personne qui se retrouve au chômage pour mille et une raisons à 56 ou 57 ans, la société a tendance à admettre sans le dire que bah, t'attends la retraite, quoi, même si financièrement parlant, ça devient plus possible. Puis non, ces personnes, elles ont une énorme richesse, elles ont souvent une énorme envie de continuer à contribuer, à apporter des choses, à transmettre, à faire profiter de leur expérience et d'être actives dans la société sous une forme ou sous une autre. Donc il n'y a aucune raison. Puis je crois qu'une société, de toute façon, qui fonctionne bien, qui avance bien, c'est une société qui prend soin d'inclure tout le monde.
Ouais. Voilà. Et tu parlais des accidents du travail et des seniors.
Oui, aussi, ça c'est une statistique que j'ai découverte, qui est donnée par l'INRS. Et évidemment, les accidents du travail chez les seniors ont des conséquences et un impact souvent beaucoup plus grave que chez les jeunes. Donc là aussi, réfléchir à des aménagements aussi de postes de travail, aménagement du travail aussi, évolution, ça veut dire reconversion, ça veut dire formation, ça veut dire aussi investir sur cette population-là.
Ouais, les plus de 50 ans, tu dis, c'est 23% de la population active et ils subissent 41% des décès au travail.
Oui, parce que les conséquences sont souvent plus graves, en fait.
Ouais, d'où l'importance aussi de se mettre dans une dynamique différente à cet âge-là et pour les entreprises vis-à-vis de ces populations-là.
Ouais.
Et du coup, deux approches innovantes permettent d'améliorer cette performance et cette soutenabilité et puis ce bien-être. Donc le management par le care, tu disais, et l'accompagnement des seniors dans la dynamique d'économie régénérative.
Oui, c'est ça, exactement. Le management par le care, c'est un changement de posture managériale pour accompagner le monde en transition. On ne va pas faire un lendemain différent avec des pratiques du XXe siècle. Enfin, elles étaient adaptées à ce moment-là, probablement. Aujourd'hui, on a besoin d'un changement de posture, de vision, de comportement, de relation, pour accompagner dans la profondeur les transitions et les transformations. Donc l'idée, c'est d'apprendre aux managers à prendre soin d'eux, déjà, à la base, de leur santé, de leur sommeil, de leur alimentation, de leur équilibre de vie, pour être dans les meilleures conditions possibles, pour pouvoir, si on se pose du point de vue de l'entreprise, pour pouvoir faire leur job et puis accompagner leurs équipes. Prendre soin des équipes aussi, de la relation, avoir une écoute aussi plus attentive, prendre soin d'être bien traitant, d'adapter en fonction des besoins et prendre soin du collectif. C'est un manager, pour moi, c'est un facilitateur du succès collectif notamment, donc savoir fédérer des collectifs, des parties prenantes autour de projets qui ont du sens. Mais ça demande un peu de technique, beaucoup de travail sur sa posture personnelle, sur son ancrage personnel. Sinon, ça, voilà, peu de chances d'aboutir, en fait. Il y a une étude qui a été faite sur l'évolution des attentes des collaborateurs et des pratiques d'engagement dans l'Observatoire du futur du travail. Du management et des RH, c'est le Learning Lab Human Change, avec l'accent du CNAM, et qui montre que ce sont les entreprises qui investissent vraiment dans une stratégie et des formations sur le management par le care qui obtiennent les meilleures performances et engagements. Ça a un impact sur l'absentéisme, ça a un impact sur la fidélisation des collaborateurs, ça a un impact sur la concrétisation réelle des projets. La rapidité aussi à laquelle on va faire les choses. Donc cette culture du prendre soin a vraiment un impact sur la performance globale d'une entreprise et est indispensable pour avoir des projets vertueux qui aboutissent derrière en embarquant tout le monde avec soi.
C'est un essentiel du coup.
Oui, c'est un essentiel pour favoriser l'adaptation aux mutations. Ça, c'est le management qui est réellement bienveillant et collaboratif. Ça va stimuler l'agilité, ça va stimuler la créativité des équipes face au changement. Ça va réduire la peur aussi. Ça va permettre de se lancer dans des choses nouvelles et en limitant les résistances. Ça améliore l'engagement et ça réduit le stress. Les managers qui sont formés au care, ça facilite un climat de confiance qui est essentiel à la motivation. Et puis, prendre soin des ressources humaines, Ça permet aussi de mieux prendre soin de la planète avec une posture managériale bien traitante qui favorise des comportements éco-responsables et soutenables. Quand je prends soin de moi et que tout le monde prend soin de moi et que je prends soin des autres, eh ben j'ai envie de prendre soin, de vivre dans une planète vivante. J'ai envie de la protéger, j'ai envie d'être attentif et je suis plus en conscience aussi de l'impact de mes actions sur mon environnement. Donc, ça a des effets multiples par rebond.
Qu'est-ce que c'est que ce management par le care ?
Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une approche qui est bienveillante et bien traitante et qui vise à prendre soin de soi, des autres, de l'organisation et du vivant autour de soi. On vit en ce moment dans un monde de travail qui est en grande mutation, qui est hautement incertain, qui souvent est hybride, à distance, où les relations peuvent avoir tendance à se déliter. Et donc le management par le care, ça va mettre l'accent sur l'attention portée à la santé physique, mentale, émotionnelle des collaborateurs, de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, moi, je vois beaucoup de gens qui travaillent en distanciel de manière conséquente et qui se désadaptent un peu socialement parlant. Voilà. Peuvent avoir tendance à devenir plus agressifs parce que j'ai plus les codes sociaux. Je perds les codes sociaux. Voilà, je souffre de solitude. Personne ne se préoccupe de moi.
Donc il y a un certain isolement.
Il y a un certain isolement, un certain repli sur soi. Et ça crée de la souffrance, parfois ignorée d'ailleurs, mais ça crée aussi de la souffrance.
Oui, on parle beaucoup des salariés, là on parle des managers, mais les entrepreneurs, c'est pareil, dans ces nouvelles conditions de travail, c'est pas évident d'avoir de l'espace disponible pour soi et pour les autres.
Oui. En France, il y a quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour parler du management par le care, c'est Cécile Dejoux qui est une chercheuse qui travaille au CNAM, voilà, et qui a créé un premier MOOC sur le management par le care. Et qui définit le management par le care en disant que c'est un état d'esprit positif et une nouvelle façon de travailler dans un monde numérique hybride, collaboratif et surtout incertain. Ce type de management valorise une relation individualisée avec chacun et part du postulat que le collaborateur doit d'abord porter attention à sa santé physique, mentale, émotionnelle au travail, puis à celle de ses collaborateurs, en s'appuyant sur des modèles de management spécifiques.
Super. Ouais. Et donc, il y a trois piliers à ce management ?
Voilà, c'est trois piliers. C'est le self-care, prendre soin de soi. Le manager doit d'abord prendre soin de lui-même pour être en mesure de soutenir les autres et ses équipes. Ça implique la gestion du stress, ça implique l'autocompassion, ça implique la régulation des émotions, la gestion du sommeil... le soin porté à sa nourriture, à son activité physique, etc. Le deuxième volet, c'est le team care, donc prendre soin de son équipe, pour avoir une équipe engagée et performante. Il faut un environnement qui soit bienveillant, où chaque membre se sent reconnu, se sent écouté aussi, et soutenu dans un projet collectif.
Il y a des niveaux de maturité de management et d'équipe aussi, parce que la maturité des uns fait aussi le type de management. C'est une co-responsabilité, oui.
Exactement. Ouais. Et puis le troisième volet, c'est Planet Care. Enfin, tout ça, si ce n'est pas mis au service de quelque chose de positif et de constructif, ça peut être discutable. On a une responsabilité sociale et environnementale. Des entreprises qui fait partie intégrante du management par le care et qui encourage des pratiques durables et respectueuses à la fois pour les personnes et pour la planète. Cela étant, aujourd'hui, au-delà de... certaines entreprises vivent un peu la RSE comme une obligation de tableau de bord voilà. Et de chiffres à remplir. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est acculturer son entreprise au prendre soin qui allie... La bienveillance et l'efficacité, ça devrait permettre de développer une qualité de relation, du faire ensemble, des comportements, des postures, des innovations qui sont indispensables pour faire face aux défis du monde du travail et de la société.
Oui, on est loin de la RSE obligatoire, mais plutôt avec une RSE qu'on dit intégrée. intégrée, ça touche l'organisation, voilà. La raison d'être, voilà. Oui, jusqu'au, voilà. Jusqu'au cœur, en fait. Voilà. C'est pas seulement ce qu'on produit vers l'extérieur.
Oui.
Quelques chiffres, peut-être ?
Alors, quelques chiffres. Des entreprises qui intègrent un management bienveillant. Alors, j'insiste sur le fait d'un management bienveillant incarné. Voilà. connaissent une hausse de 40% de l'engagement des collaborateurs. Ça, c'est vraiment important. Enfin, au-delà des chiffres, moi, j'écoute des centaines de personnes chaque année, voire des milliers, et une personne qui se sent dans un environnement professionnel qui est porteur, qui est positif, qui est constructif, où il y a de l'écoute, où il y a de la bien-traitance, où elle se sent bien à sa place, où elle peut s'exprimer, partager des idées, où il y a vraiment du sens dans ce qu'elle fait, mais elle est juste heureuse, contente, fière de travailler dans cette entreprise-là. Elle le partage avec d'autres volontiers. Un environnement de travail bien traitant réduit de 30% l'absentéisme et de 25% le turnover. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même super important. Sur des marchés un peu en tension, du coup, quand je suis contente de me lever le matin pour aller retrouver mes collègues sur un projet qui a du sens, même si j'ai un rhume, j'y vais.
Voilà. Ouais. Alors, et puis, on fera attention à la propagation des virus, mais...
Faut pas
l'enfiler aux autres.
et je ne vais pas forcément voir ailleurs. Le turnover, ça vient quand même souvent. Alors, je fais pas mal de bilans de compétences, donc de gens qui en ont ras-le-bol de leur job et qui veulent faire autre chose. C'est souvent une question de contexte dans lequel elles interviennent. C'est souvent une question de management dans lequel elles se retrouvent pas. C'est souvent une question de sens donné à l'action qu'on leur demande, dans lequel elles ne se retrouvent pas. Donc, c'est vraiment un point qui est clé. Et puis, un manager facilitateur favorise la créativité et permet une réduction de 15% des coûts liés à l'inefficacité organisationnelle. Donc, on peut vraiment s'y retrouver en investissant dans le bien-être de chacun.
On le retrouve, ce point-là, également dans toute la recherche de l'ISEOR, la théorie socio-économique qui investit sur le potentiel humain et qui a un référentiel vraiment de 30 à 40 ans derrière sur les coûts, le coût des coûts cachés, voilà. Voilà. Les dysfonctionnements qui tiennent beaucoup à un non-investissement sur la communication, le prendre soin. On passe à l'accompagnement des seniors, donc.
Oui, c'est vraiment un enjeu de transmission, de transition et de performance. Avec le vieillissement de la population active, intégrer et valoriser les seniors va devenir un levier stratégique pour la pérennité des entreprises et puis un levier pour toute la société. Les personnes qui arrivent dans leur dernière partie de carrière sont des personnes qui ont un rôle de transmission qui est essentiel. Moi, j'ai vu de manière assez drôle des gens revenir et se faire former alors qu'ils étaient déjà à la retraite parce que juste les organisations avaient un peu oublié qu'elles avaient une expérience et un savoir-faire qui pouvait être utile aux jeunes générations qui arrivent. Donc, les seniors sont souvent les gardiens des savoirs et des expériences accumulées et c'est un atout majeur pour les nouvelles générations. Une approche inclusive et durable, mieux intégrer les seniors, ça permet de créer des dynamiques intergénérationnelles enrichissantes. Souvent dans la société, il y a une espèce d'opposition entre les jeunes et les vieux, si je le fais de manière un peu schématique. Alors qu'en fait, les deux adorent travailler ensemble, adorent être ensemble. Chacun apporte des choses qui sont stimulantes, qui sont enrichissantes l'un à l'autre. Donc je crois que les mettre ensemble, ça ne peut que...
Ça peut même créer des vocations.
Ça peut créer des vocations. En tout cas, ça crée du plus. Et puis, du coup, un impact positif sur la performance. La collaboration intergénérationnelle booste l'innovation et la résilience des équipes. Donc, il ne faut pas avoir peur de les mettre ensemble. Un impact Bien sûr, sur la santé et sur l'autonomie. Ça, c'est aussi un de nos enjeux de société. On est dans une population vieillissante. Est-ce que... on commence à entendre à droite à gauche que bah, les vieux, ça coûte, ça pèse sur l'économie. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est juste une réalité. Notre dynamique des âges, notre pyramide des âges est comme elle est. Un senior qui est actif, qui investit dans son travail et dans sa transition vers la retraite a 50% de risque de moins de développer une dépression ou une maladie grave et reste autonome plus longtemps. Donc, il y a un vrai enjeu de société derrière. Et du coup, un coût moindre pour la société parce qu'intégrer les seniors, ça permet de réduire à la fois les dépenses de santé, d'assurance maladie et en retardant la perte d'autonomie. Voir les dépenses de chômage aussi derrière.
On retrouvera tous les liens vers les études des chiffres que tu donnes en fin d'émission. Peut-être reciter quelques chiffres. Les entreprises qui adoptent une politique inclusive envers les seniors enregistrent une hausse de 21% de leur capacité d'innovation. Ça, c'est une étude de l'OCDE. Ouais, c'était en anglais OECD, oui. De 2023. Et pareil, l'intégration des seniors dans des rôles de mentorat augmente la satisfaction au travail de 35% chez les jeunes collaborateurs. Et ça, c'est France Stratégie qui en parle. Enfin, dernier chiffre, les seniors qui préparent activement leur fin de carrière sont 25% plus susceptibles d'avoir une retraite épanouie et en bonne santé. Et ça, c'est l'étude de l'INSERM de 2023. Tout le propos, le fort à propos de ton accompagnement.
Donc la fin de carrière, ça se prépare.
Oui. Oui, parce qu'apparemment, c'est un accompagnement qui inexistant ou sous-estimé dans une période de doute et de choix plutôt complexe.
Absolument, oui.
Est-ce que tu veux bien faire un focus sur la transition de vie de l'entrepreneur, enfin transition de carrière, fin de carrière?
Oui. Pour un entrepreneur, la fin de carrière, c'est pas seulement un départ à la retraite. Il y a plusieurs questions stratégiques et existentielles qui se posent. Sur à la fois comment céder ou transmettre son entreprise sans compromettre son avenir et celui de ses salariés si on en a, comment donner un nouveau sens à sa vie après avoir été engagé à 1000% dans son projet, comment je préserve ma santé physique, mentale après des années de travail intensifs, et puis quels nouveaux projets peuvent s'offrir à l'entrepreneur sans être contraint de tout recommencer à zéro. L'absence de soutien adapté peut conduire certains entrepreneurs aujourd'hui à prolonger leur activité au-delà du raisonnable ou au contraire à subir une rupture brutale avec leur identité professionnelle. Et du coup, derrière, on a des risques multiples de dépression, de perte de repères, un sentiment d'inutilité ou encore des difficultés financières mal anticipées. Donc on a derrière un enjeu qui est à la fois humain, qui est économique et puis qui est sociétal. L'accompagnement des entrepreneurs, il y a pléthore d'accompagnements et vous en faites partie de cette richesse-là, mais pour se lancer, pour démarrer son activité. Mais une fois qu'on est un entrepreneur mature et qu'on se projette sur la fin de carrière, on est tout seul. Les entrepreneurs sont vraiment, vraiment tout seuls. Et c'est même pas un sujet dont ils parlent entre eux. Voilà, donc c'est un peu un sujet tabou et qui se vit tout seul.
Oui, on l'a vu, hein, la solitude du dirigeant, elle est en tout temps, même dans les managers à haut niveau, il y a une grande solitude, tu ne peux pas partager. Et les conseils que tu as, à part les pairs, c'est dans un réseau d'entrepreneurs, et auquel cas tu le dis aussi, c'est pas forcément même des sujets qu'on aborde, mais on a des conseils en fait. On a l'expert comptable, on a le juriste, on a la team proche, mais ce n'est pas des sujets qu'on aborde forcément. Et donc, comme on a eu cette habitude tout au long de la vie à fonctionner tout seul, et ben à ce moment-là, pareil, des fois, on ne cherche même pas, en fait, à se faire accompagner.
Oui, c'est pas forcément dans les habitudes. Surtout que là, on va chercher un équilibre global. Ouais. Donc, c'est tous les aspects de ma vie, à la fois pro et perso, qu'il faut que je prenne en ligne de compte pour passer d'un équilibre à un moment donné à un autre équilibre qui soit proche de qui je suis et qui soit satisfaisant pour la personne.
Ouais, sans laisser tomber les équipes, les salariés en place. Il y a un vrai enjeu de transmission. Il y a du juridique extrêmement complexe. Il y a de la gestion de patrimoine qui est assez complexe également.
Ouais.
Donc voilà, je dirais que l'individu est dans son équilibre et dans sa prospective future de bonheur et de santé. Ouais. C'est presque un parent pauvre, c'est la dernière roue du carrosse, quoi.
Oui, c'est pour ça qu'un accompagnement qui soit pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui permette à l'entrepreneur vraiment de pouvoir se recomposer sa vie et d'anticiper sa transition de manière sereine. Je pense que c'est
le plus serein possible, en tout cas.
C'est ça, et le plus serein possible. Je pense que c'est assez utile.
Et à quoi pourrait ressembler un tel parcours, du coup?
Justement, à une rencontre avec des experts de différents domaines, parce que, comme tu l'as très bien évoqué, Elisabeth, il y a des aspects qui sont techniques, il y a des aspects qui sont pointus. Mais c'est aussi développer chez l'entrepreneur cette capacité à se projeter, loin et à rester en connexion avec ce qui l'anime vraiment au plus profond, ce qui fait sens avec lui, et voir comment il peut continuer d'avancer avec ça dans des modèles économiques ou pas économiques d'ailleurs, mais dans des modèles qui peuvent être différents de celui de
économique
de
et écologique.
Économique
et écologie personnelle, ouais.
Voilà, et écologie personnelle.
Donc il y a une période de bilan,
il y a une période de rencontre
avec les spécialistes.
Bien sûr, une période de bilan, bilan financier, bilan technique, bilan de la structure de son entreprise, bilan aussi, enfin faire le point aussi sur ses envies et ses besoins. Un accompagnement à la transmission d'entreprise, des programmes de coaching pour vraiment redéfinir un projet de vie qui ait du sens, des formations, des sensibilisations sur la santé, la gestion du stress, la préparation à la retraite. Donc c'est vraiment un accompagnement complet avec des facettes multiples.
Et qui fait un fil rouge aussi, qui permet d'accompagner sur la durée, parce que oui. Quand tu fais du one shot, je suis allée voir mon conseiller en patrimoine, celui qui fait la transmission, que j'essaie de prospecter dans toutes les directions, faire du lien entre tout ça, et il y a besoin de temps, il y a besoin de mûrir, il y a besoin d'avoir des réponses. Et ce n'est pas un projet qu'on fait en 3 semaines. Hein.
Non, non, ça se fait un peu dans la durée, oui.
Voilà, et donc d'avoir quelqu'un qui fasse, je disais fil rouge, mais qui soit une sorte d'encre à cette réflexion et qui permette de faire miroir aussi aux doutes, aux peurs, et en même temps aux enthousiasmes et aux choses qu'on ne s'est jamais autorisées.
Voilà, et aux autorisations. Moi, je crois beaucoup aux autorisations.
C'est ça.
Exactement.
Et ça, cet accompagnement qui n'existe pas ailleurs, toi, tu as envie de le créer, le mettre en place dans le Val-de-Saône?
Oui, absolument. Oui.
Ça sera après quand?
Bientôt, avant l'été. Je voudrais bien faire un premier lancement avant l'été, oui.
Ok, voilà. L'avis à nos auditrices et aux éditeurs.
Voilà, qui... et puis aux experts aussi qui auraient envie de rejoindre le projet. Moi, je ne suis pas du tout une experte en gestion de patrimoine, par exemple, mais voilà.
D'accord. Donc, quelles compétences ou expertise tu aurais besoin? Donc, tu parles de gestion de patrimoine, est-ce qu'il y a d'autres...
Oui, gestion de patrimoine, en termes de transmission d'entreprise aussi, je crois que ça demande aussi une expertise. Dont tout le monde n'a pas forcément besoin en fonction de la structure de sa boîte, mais... ça peut être utile.
C'est sûr que quand tu es indépendant, il y a moins d'enjeux que quand tu as 10, 20, 30, 250 salariés, voire plus.
Voilà. Cela étant, les questions financières sont aussi importantes, même quand tu es indépendant.
Ah bah, clairement, bien sûr.
Voire surtout.
Oui, parce que disons que l'équilibre de la suite est peut-être encore plus fragile quand tu es indépendant, parce que vraiment tout s'arrête.
Tout s'arrête. Puis quand tu as une structure, quand tu... Voilà. Tu peux la transmettre et tu sais qu'après, elle va continuer à vivre de notre façon. Quand tu es indépendant, tu arrêtes, c'est fini.
Courant porteur. Eh bien, merci Marie-Odile. On arrive à la fin de cette émission. Encore une fois, on retrouve tous les liens de tout ce que tu as décrit, les chiffres, les études, et tes coordonnées également dans l'émission. Donc, nous avons entendu Marie-Odile Robinet, coach en entreprise et porteuse de cette offre magnifique des projets de fin de carrière pour les seniors, ce qu'on appelle les seniors. Pour te retrouver, tu as une page LinkedIn, on mettra le lien également, et on peut t'écrire par mail à morobinet, donc pour Marie-Odile, @etik.com. Prochaine émission, Eh bien, la prochaine émission, nous aurons dans le studio Fabrice Volpré, qui est un des deux cofondateurs de la coopérative de la transition Val-de-Saône-Mont-d'Or, qui nous parlera de son engagement à la fois professionnel et personnel dans cette coopérative notamment, mais pas que, et d'un magnifique événement qui aura lieu le 24 mai prochain, un festival de la transition Val-de-Saône-Mont-d'Or, Agir en local. Merci à tous.
Merci.
Merci.
Merci Marie-Odile.
Vous venez d'écouter Courant Porteur, initiative et résilience d'un territoire.
Une émission mensuelle pour faire émerger un mieux vivre ensemble résilient dans le Val-de-Saône. Vous pouvez retrouver l'émission et ses références sur radio-calade.fr.
Et pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site sonessence.fr. SAONE2SENCE.